Que le nom de Jésus soit béni. Nous allons faire une lecture dans 1 Pierre, au chapitre 4. 1 Pierre, chapitre 4, verset 7. Que le Seigneur vous bénisse, mes frères et sœurs. Mais j'ai à cœur de prier aussi. Il y a à Saint-Martin-de-Crau une église de maison. Ce sont des gens qui prient tous les jours pour nous. Ils se rassemblent, une vingtaine, une trentaine. C'est dans la maison de M. et Mme Quéré, de M. et Mme Casano. Et j'ai vraiment à cœur ce matin de prier pour eux. On va le faire, s'il vous plaît. Notre Père, notre Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, tu bénis tous ceux qui ont la crainte de ton nom. Tu as dit que tes regards parcouraient la terre pour voir celui qui te cherchait, qui était intelligent, qui cherchait à faire la paix avec toi. Et tu vois cette maison, je te prie, Seigneur, nous te prions tous ensemble pour que la bénédiction de l'Éternel soit sur cette maison, à Saint-Martin-de-Crau, dans la maison de M. et Mme Quéré, que ta bénédiction repose sur eux. Seigneur, tu nous unis par le lien de l'Esprit. Tu sais ce qu'ils sont en train de vivre. Seigneur, conduis-les et bénis-les selon ta volonté. Merci Jésus. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Lisons 1 Pierre chapitre 4, verset 7. La fin de toutes choses est proche. Si ça a été écrit à l'époque, laissez-moi vous dire que ça tient encore plus debout. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour, car l'amour couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres, sans murmure, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Amen. Alors après, il y a quelques exemples. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent à la gloire, la puissance, au siècle des siècles. Amen. Si vous lisez dans les autres épîtres, vous verrez que Dieu dit, voilà, ben celui qui préside, qu'il le fasse de cette façon, que celui qui sert de cette manière, celui qui exerce la libéralité, le fasse avec joie, etc., etc. Chacun doit savoir comment il doit servir le Seigneur. C'est la reprise scolaire. J'ai beaucoup réfléchi à cette reprise. J'ai beaucoup médité hier, toute la journée. J'ai passé la journée à méditer, à prier. Pourquoi ? Parce que je ressens fortement dans mon cœur que tous les croyants doivent arriver à ce moment où, comme Saul de Tarse sur le chemin de Damas, ébloui par cette lumière plus éclatante que celle du soleil, a pu dire, en réalisant qu'il avait affaire à Jésus-Christ, « Que veux-tu que je fasse ?» Vous êtes d'accord ? C'est quelque chose de très sérieux. Nous avons chanté tout à l'heure « Tu es le sauveur de mon âme ». Le deuxième couplet dit « Tu es le Seigneur de ma vie ». Posons-nous la question, est-ce vrai ? Tu es le sauveur de mon âme, j'espère qu'on peut tous le chanter. Est-ce que nous pouvons tous dire avec conviction, oui, ce sauveur est également le Seigneur de ma vie ? Il se pourrait que ce ne soit pas le cas pour tout le monde. Et je voudrais vous exhorter, ma responsabilité est sérieuse, parce que nous sommes dans un monde qui attire la colère de Dieu, les pécheurs sont sous la colère de Dieu, les pécheurs sont perdus pour l'éternité, et le Seigneur nous a sauvés pour que nous devenions à notre tour la lumière du monde, le sel de la terre. Alors, comment vivons-nous notre vie chrétienne? Comment vivons-nous le plan de Dieu? Est-ce que je suis, chacun pour soi, posons-nous la question, est-ce que je suis dans le plan de Dieu? Est-ce que je suis juste sympathisant, comme une sœur le disait tout à l'heure dans sa prière avant que le culte ne commence? Mais Seigneur, aide-nous, éclaire-nous, afin que nous ne soyons pas juste des observateurs, des sympathisants, des participants du dimanche matin, mais véritablement des disciples du Seigneur. C'est quelque chose de sérieux. Est-ce que vous savez tous quel est le rôle de l'Église sur la terre? Peut-être que plusieurs chrétiens ne pourraient pas répondre, tellement leur cœur est obscur, obscurci par les ténèbres. Quel est le rôle de l'Église sur la terre? C'est une question sérieuse. Vous qui découvrez l'Évangile, vous ne pouvez pas dire « Ah, moi, comme quelqu'un m'a dit dernièrement, moi je viens dans votre Église parce qu'elle est mieux qu'une autre. » Ce n'est pas ça l'Église. Le rôle de l'Église, c'est que les sauvés travaillent au salut des perdus. Avons-nous toujours le fardeau des âmes? Ce sont des questions profondes. Est-ce que nous avons vraiment toujours à cœur que des âmes soient sauvées, ou le fait de ne pas avoir eu le résultat que nous aurions voulu nous a découragés? C'est possible. L'ennemi fera feu de tout bois pour nous décourager, pour nous faire tourner le dos au jour du combat, comme c'est écrit dans le psaume 78, si je me trompe. Les fils d'Éphraïm, armés, tirant de l'arc, experts dans la guerre, ils ont tourné le dos le jour du combat. Et peut-être que plusieurs chrétiens, vous en êtes là cet après-midi, ce matin, pardon. Est-ce que vous êtes soucieux de dire, moi je veux que la volonté de Dieu soit faite dans ma vie? Est-ce que c'est vraiment votre souci? Est-ce que vous pouvez tout dire, oui, mon souci, entre guillemets, c'est je veux faire la volonté du Seigneur. Est-ce que c'est important pour vous? Ou est-ce que vous en fichez? Hein? Est-ce que vous en fichez? Est-ce que, non, moi je veux une église, une assemblée où on est bien, la communion fraternelle, les copains. Ou est-ce que votre souci, c'est de dire, Seigneur Jésus, je sais qu'un jour, je vais te rencontrer. Je veux que ce moment soit le moment le plus beau de mon éternité. Le jour où je comparaîtrai devant la face de Dieu. Je veux avoir eu la joie sur la terre de faire ta volonté. Tu m'appelles plus dans l'église à édifier les chrétiens. Tu m'appelles plus à l'extérieur à évangéliser les perdus, à arracher les âmes des ténèbres, à être ce témoin que tu veux que je sois, même si je ne parle pas. Ce n'est pas parce que l'on parle toujours de Jésus qu'on est de bons témoins. C'est parce que l'on vit l'évangile que l'on est un bon témoin. Alors que faut-il? Que faut-il vraiment pour être ces croyants que Dieu veut? Que faut-il vraiment pour amener des âmes, des ténèbres à la lumière? C'est une guerre, vous le savez que c'est une guerre. Et comment combattre ce bon combat? Comment vivre cette guerre spirituelle si on n'est pas en paix? Est-ce que quelqu'un qui est pas en paix peut se battre spirituellement? Hein? C'est pour ça que beaucoup de chrétiens sont dans la confusion, ils ne sont pas en paix. Moi, je peux vous dire que pour combattre le bon combat, il faut être en paix. Et Dieu est un Dieu de paix. Dans le monde, on fait la guerre pour avoir la paix. Mais dans le royaume du Seigneur, c'est exactement l'inverse. Il faut être en paix pour faire la guerre spirituelle. Ce n'est pas possible autrement, sinon on ne fait que des bêtises. Alors il faut trois choses sérieuses pour vivre ce que Dieu veut que nous fassions. On l'a lu, la fin de toutes choses est proche. Nous sommes appelés dans ce texte à vaquer à la prière et nous sommes appelés à mettre au service des autres le don que nous avons reçu. Vous avez tous reçu quelque chose, on le verra à la conclusion. Premièrement, l'œuvre de Dieu ne peut se faire qu'avec l'onction du Saint-Esprit. Ce n'est pas possible autrement. Pour que l'œuvre de Dieu se fasse, il faut la puissance du Saint-Esprit. L'Église primitive a commencé avec la Pentecôte. Et grâce à la Pentecôte, l'œuvre de Dieu a commencé. Est-ce que vous êtes désireux d'être baptisé du Saint-Esprit, d'être renouvelé dans la vie de l'Esprit? Est-ce que c'est votre préoccupation? Je parlais du souci tout à l'heure de connaître la volonté de Dieu, mais justement, quelqu'un qui a le souci de la volonté de Dieu a la préoccupation de dire, Seigneur, j'ai été baptisé dans le passé, je parlais en langue ou j'exerçais les dons spirituels, tout ça, ça s'est éteint. Est-ce qu'on peut éteindre l'Esprit? Eh bien oui, on peut se refroidir, ça va très 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 vite. Un feu, vous ne l'alimentez pas, il est vite éteint. Il est vite éteint. Et le témoignage de David qui dit « Tu oins d'huile ma tête ». Et ma coupe déborde, s'adresse à des hommes et à des femmes qui ont une telle communion avec le Saint-Esprit que ça déborde. Et c'est ce que Dieu veut. C'est un devoir Nous, on n'aime pas les, on aime, nous, les droits. J'ai droit à ceci. Il y a des gens, quand ils arrivent en France, ils disent, quels sont mes droits? Voilà. Ou des Français. Quels sont mes droits? Quand on arrive dans une entreprise, j'ai droit à quoi? Quels sont mes congés? Si je bosse le dimanche, j'ai droit à quoi? Vous voyez? Et il y a les chrétiens qui, toute leur vie, veulent savoir ce qu'ils ont droit. À cause de ton œuvre, Seigneur, j'ai droit à quoi? Et voilà, Seigneur, donne. J'ai droit à ta bénédiction. Tu es mort sur la croix pour moi, j'ai droit à ta bénédiction. Et ça s'arrête là. Alors qu'il y a des impératifs dans la parole de Dieu. Il faut qu'un homme naisse de d'eau et d'esprit pour être sauvé. Il faut que vous soyez baptisés du Saint-Esprit. C'est un impératif. Ce n'est pas une option. Il y a des choses qui sont optionnelles dans l'Église. Il y a des choses, si vous ne les faites pas, ce n'est pas grave. Il y a des petits trucs, ce n'est pas méchant. Mais il y a des impératifs. Jean-Baptiste a dit, il faut qu'il croisse. Quelqu'un qui veut être un ancien, un évêque, il y a sept, dans 1 Timothée 3, il y a sept impératifs. Il faut que l'évêque soit ceci, soit cela. C'est des impératifs. Est-ce que Dieu a le droit de fixer des impératifs? Ou est-ce que vous en voulez, vous, d'un Dieu qui fait les choses à peu près? Vous en voudriez, vous, d'un Dieu qui fait les choses... Nous avons un Dieu exigeant, et heureusement qu'il l'est. Heureusement. L'Église primitive a été transformée par le baptême du Saint-Esprit. Et l'Église primitive est notre modèle. On n'a pas de modèle aux États-Unis ou en Corée, où vous voudrez. Notre modèle, c'est l'Église primitive. Notre modèle, il est là, dans le livre des Actes. Et il y a eu un prix. 10 fois, je crois, Jésus a dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix chaque jour et qu'il me suive. Nous voulons l'onction pour que l'Église amène la bénédiction sur les perdus. Franchement, est-ce que vous croyez que cette onction est possible? Est-ce que vous croyez que dans mon culte, il peut y avoir une telle onction du Saint-Esprit, que les pécheurs sont convaincus de péché, que les chrétiens sont convaincus de justice? Soyez justes, les chrétiens. Ils chantent chercher le royaume de Dieu et sa justice, mais ils n'en ont rien à faire de la justice de Dieu. Excusez-moi, beaucoup de chrétiens ne sont pas soucieux de savoir ce qui est juste. Je suis trop bien placé pour savoir dans mes entretiens que certaines ne sont pas du tout intéressées par la justice divine. Je ne parle pas de la justification qu'on obtient par le sang de Jésus-Christ. Je parle de la pratique de la justice qui est d'obéir à ce que Dieu demande. C'est une question. Est-ce que j'ai soif de cette onction? Est-ce qu'il y a un prix à payer? Ah, mais on m'a dit que tout était gratuit. Oui, c'est gratuit. Tout est gratuit. Tout est grâce. Mais il y a un prix à payer. Il y a un prix. Quand Dieu dit acheter de l'or et de l'argent sans rien payer, acheter, je te conseille d'acheter de l'or éprouvé par le feu. Alors, il faut payer. Mais ça veut dire qu'il y a un prix à payer. Il n'y a rien à débourser. Il n'y a pas de portefeuille à ouvrir. Mais il y a des choses à rechercher. C'est ça le prix à payer. Est-ce qu'on est prêt à payer le prix pour l'évangélisation de Toulouse? Est-ce qu'il y a ce fardeau sur mon cœur? Oui, il y a un prix à payer. C'est le prix de la consécration. C'est le prix de l'abnégation, des mots peut-être qu'il faudrait expliquer pour certains. C'est le prix de la sanctification. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. C'est le prix du service, que chacun mette au service des autres le don qu'il a reçu. L'année recommence, il y a des frères et sœurs qui sont en danger, qui ne font rien. Vous êtes tombés dans la paresse, et ce n'est pas parce que nous sommes à peu près 400 membres dans l'église qu'il faut que chacun dise, « Oh ben il y en a qui le feront, il y en a qui le feront, quelqu'un d'autre le fera. » Toutes ces choses que je viens de citer, d'ailleurs, comment les considérez-vous? Ça, c'est important. Dieu regarde au cœur. Notre frère, M. Sinarinzi, vous a dit tout à l'heure que quand on chante, Dieu regarde au cœur. Mais quand on écoute la prédication, Dieu regarde aussi. Comment considérons-nous la sainteté? La pratique de la sainteté? Comment considérons-nous la consécration? Comment considérons-nous le fait de devoir renoncer? Est-ce que c'est un fardeau? Ou est-ce que c'est un honneur? C'est une question. Est-ce que ça me fatigue, comme les jeunes disent, ou est-ce que ça saoule de faire ci, de faire ça? Ou est-ce que j'ai compris que c'est un honneur de me consacrer à Dieu? Ça, c'est une question à laquelle il faut répondre. Si servir Dieu, c'est une corvée, si vous sanctifiez, c'est une corvée, si arriver à l'heure au culte, c'est presque une corvée, il est temps que vous changiez votre façon de penser. C'est un honneur de servir Dieu. Vous comprenez? Des fois, on entend des gens, moi j'ai abandonné ça, j'ai abandonné telle carrière pour servir. Vous voyez? Mais il ne fallait pas qu'il apprête. Moi, je crois qu'il n'y a pas plus grand honneur que de servir le Seigneur. Ce qui prouve combien les mentalités sont parfois tordues. Mes frères et sœurs, se disposer à servir Dieu, c'est une grâce. Et l'ennemi fera feu de tout bois pour nous faire tordre le sens des Écritures. C'est un honneur d'être un chrétien. C'est une bénédiction. Oui, ces choses auxquelles Dieu nous appelle sont un privilège. Et si l'ennemi vous fait croire que c'est difficile, ce n'est pas vrai. Ce qui est difficile, c'est d'être à la fois dans le monde et à la fois chrétien. Ce qui est difficile, c'est d'être tiède. Même si ça se fait tout seul, en vérité, c'est beaucoup plus difficile. Parce qu'il n'y a rien de plus beau que de dire, Seigneur, j'ai soif de toi. J'ai soif du Dieu vivant. Jésus a dit, si quelqu'un a soif, il fera quelque chose. Qu'est-ce qu'il fera? Il viendra. « À moi, dit Jésus. » C'est écrit. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Il n'est pas une dénomination. Il a besoin de Jésus. Quelqu'un qui a soif, il n'a pas besoin de il n'est pas tellement intéressé par la doctrine. Quoi qu'attention, ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais ce quelqu'un qui a soif, il a soif de Jésus, de la présence de Dieu. Les moments de culte sont des moments où il jouit de la présence de Dieu. Si quelqu'un a soif, c'est ça. À quoi reconnaît quelqu'un qui a soif? Eh bien, il vient à moi, dit Jésus. Si vous ne venez pas à Jésus, vous pouvez chanter « J'ai soif de ta présence ». Ça ne sert à rien. Peut-être que ça peut vous débloquer un désir. Ça peut le provoquer, j'en suis sûr. Mais ce n'est pas parce qu'on chante « J'ai soif de ta présence » que j'ai soif de Dieu. Quand j'ai soif de Dieu, j'ai besoin d'être avec lui. Alors, avez-vous besoin d'être avec Jésus? Est-ce que votre culte personnel est un meilleur moment de la journée? Est-ce que j'ai le droit de vous poser des questions comme ça? Est-ce que le culte personnel est le meilleur moment de votre journée? Répondez-moi. Est-ce que c'est important? Je n'ai pas le temps, que ça soit demi-heure, un quart d'heure, 20 minutes, une heure, je ne sais pas ça. Mais est-ce que c'est le moment le plus beau de la journée? Je commence ma journée. J'ai soif de Dieu. J'ai soif d'être seul avec lui. Je réalise qu'il est là. Il me voit. Il m'entend. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. À quoi reconnaît-on quelqu'un qui a passé du temps dans la présence de Dieu? Il a bu, il a reçu, et à force de recevoir, eh bien de son cœur coule la bénédiction de Dieu sur les autres. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut que je réfléchisse. Qu'est-ce qui sort de ma vie sur les autres? Qu'est-ce qui sort de ma vie sur mon conjoint? Qu'est-ce qui sort de ma vie au boulot? Qu'est-ce qui sort de ma vie avec les gens du dehors? Qu'est-ce qui sort de ma vie dans l'église? Est-ce que j'ai soif? Si j'ai pas soif, ben demandez à Dieu. Est-ce que Dieu va vous aider? Franchement, est-ce que quelqu'un qui dit, mais c'est pour moi la prédication ce matin, après 2 mois de vacances, de demi-congé, de demi-travail, c'est pour moi? Seigneur, tu es en train de me parler, mais ne vous sentez pas jugé, ne vous sentez pas accablé, sentez-vous aimé de Dieu, qui va vous aider. Quand Dieu nous interpelle, vous êtes sûr qu'il va vous aider. Il n'est pas en train de dire, voilà, je t'interpelle et je m'éloigne. Non, je t'interpelle et je me rapproche. Et je vais t'aider comme les apôtres dans la chambre haute qui étaient pleins de crainte à cause des Juifs, parce que Jésus était mort, c'est sûr, c'était terrible. Et Jésus est entré sans passer par les portes. Moi, qu'est-ce que j'aime cette histoire. Moi, ça me plaît, ça. Quand Jésus vient, sans qu'on l'invite. Et paf, que la paix soit avec vous. Aucun reproche, alors qu'il aurait pu, au Seigneur, faire un serment de demi-heure. Allez, toi, Pierre, je vous l'avais dit. Je te l'avais dit. T'as vu? Que la paix soit avec vous. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la paix. Là où le Seigneur est, il y a la grâce. Là où le Seigneur est, il va y avoir son coup de main pour vous porter plus loin. Vous le croyez? Il est là, le Seigneur. Et c'est cette onction qui fera la différence. Dans le royaume de Dieu, les gens du monde, vous croyez qu'ils sont, ils ont besoin de voir telle religion ou telle religion? Les gens du monde, ils ont besoin de voir une église belle et vivante. Vous êtes d'accord? Les gens du monde, quand il y en a peut-être plusieurs ce matin, vous venez pour la première fois, vous dites c'est quoi? Eh bien c'est dans une église, Dieu veut sauver votre âme. Parce que si vous n'acceptez pas Jésus-Christ, vous irez en enfer. Voilà, que vous soyez évangélique, protestant, catholique, ça ne veut rien dire. Vous serez sauvé si vous acceptez de vous repentir et de vous convertir et de suivre Jésus toute votre vie. Voilà, vous serez sauvé. Ça sert à ça l'Église. C'est pour cela qu'il faut que nous appliquions à avoir toujours des évangiles. Prenez les évangiles, prenez-les gratuitement. L'Église les paiera tous, je le sais, le conseil sera tout d'accord. Mais prenez les évangiles, offrez-les et priez avant de partir au travail. Peut-être cette personne qui vous fait la tête depuis 10 ans, parce qu'elle sait que vous êtes chrétienne, peut-être que demain matin, son cœur sera prêt à vous écouter. Est-ce que Dieu peut changer un cœur, préparer un cœur? Peut-être que dans le métro, Dieu va vous mettre quelqu'un qui est en train de concevoir son suicide. Il n'y a que l'onction qui fera la différence. Et l'onction du Saint-Esprit, elle est venue sur Jésus. Pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Qu'est-ce qu'il faisait Jésus? Qu'est-ce qu'il venait de faire? Il venait de prendre le baptême. Il n'avait pas besoin de prendre le baptême, Jésus. Est-ce qu'il avait besoin de prendre le baptême? Ça, c'est une question. Non. Il était saint. Est-ce qu'il était saint, Jésus, avant son baptême? Il n'avait donc pas besoin. Il s'est identifié. Cet esprit d'obéissance, il aimait le pécheur et il s'est identifié au pécheur. Vous voyez ce qui nous prouve combien l'obéissance et la prière font que le ciel va s'ouvrir. Voulons-nous que le ciel s'ouvre au-dessus de Toulouse? Voulons-nous que le ciel s'ouvre au-dessus de nos assemblées? Il nous faut l'onction du Saint-Esprit. On n'aura pas l'onction du Saint-Esprit en disant « Baptise-moi du Saint-Esprit ». La Bible dit que le Saint-Esprit, il est donné à ceux qui lui obéissent. Et ça doit être fait de bon cœur. C'est exactement comme ce que je vous disais tout à l'heure. L'obéissance ne doit pas être une contrainte. L'obéissance, ça doit être, comme Paul dit aux Romains, une obéissance de cœur. Quand, je sais ce que c'est de préparer des prédications. Lorsque j'étais en Polynésie, presque tout le temps, je l'ai fait sérieusement. Mais je ne le faisais pas avec joie. Je le faisais, il fallait prêcher, je prêchais. Mais je le faisais, ça c'est clair. Je sais ce que c'est de servir Dieu sans joie. Et Dieu m'a malgré tout béni. Mais je sais une chose, c'est que Dieu bénit encore plus quand les choses on les fait de bon cœur. Et Dieu dit, je crois que c'est Romain, vous avez obéi de cœur à la parole du Seigneur. Oui, Dieu nous demande de préparer le sentier, préparer le chemin. Est-ce que vous êtes d'accord, mes frères et sœurs, que dans les semaines à venir, nous préparions le chemin du Seigneur? Que le Seigneur, il est le chemin sur lequel il pourra marcher dans cette assemblée. Est-ce que c'est important pour vous? Un endroit où à chaque réunion, il y a des conversions, des repentances, des guérisons, des baptêmes du Saint-Esprit, des rétrogrades qui reviennent se jeter dans les bras du Seigneur. Est-ce que c'est possible? Et ça ne sera pas réalisable s'il n'y a pas cette consécration. Si on a attristé le Saint-Esprit, eh bien, il faut régler ça. C'est écrit, n'attristez pas le Saint-Esprit, que toute amertume, toute clameur, toute animosité, toute méchanceté, toute calomnie disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Jésus, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Comment avoir l'onction du Saint-Esprit si on l'attriste? Il va essayer de remplir un vase percé. Comment avoir cette onction si je suis tout le temps en train d'éteindre l'esprit, de l'attrister, de critiquer, de calomnier? C'est pas possible. Seigneur, je relirai ta parole et je veillerai sur ces textes qui nous indiquent comment ne pas attrister ton esprit. C'est l'église aux Éphésiens, c'est une bonne église. L'église d'Éphèse est vraiment une bonne église. On entendait parler partout de leur foi et de leur amour. C'est une église qui avait une bonne réputation. Mais Dieu veut les amener plus loin. Il veut les amener à cette plénitude de l'esprit. Voilà, mais n'attristez pas. Faites attention. Vous ne voyez pas certaines choses. Mais parfois, quand vous parlez, vous critiquez, vous calomniez. Non, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Bénissez au contraire. Bénissez. C'est à cela que vous avez été appelé, dit le Seigneur. Aux Thessaloniciens, n'éteignez pas l'esprit. Ce qui est charnel, tout ce qui est charnel, ça éteint l'esprit. Tout ce qui est mondain, ça éteint l'esprit. Alors c'est vrai qu'il faut faire attention entre ce qui est humain et ce qui est charnel. Il y a des gens qui mélangent tout, tout, tout. Alors ça, c'est dommage parce que c'est du légalisme, c'est ridicule. Il y a des gens, ils confondent l'humain et le charnel. Il y a des choses, elles sont humaines. Être humain, nous sommes des êtres humains. Ce n'est pas un péché d'être un être humain. Écoutez-moi bien. Il y a des gens, ils mettent tout dans le charnel. Ce n'est pas un péché d'être un homme ou d'être une femme. Il y a des choses humaines. Alors, je n'ai pas le temps de les expliquer ce matin. Mais ne confondez pas l'humain et le charnel de grâce. Mais il y a ce qui est charnel et ce qui déplaît au Saint-Esprit. Il y a ce qui est spirituel et qui ramène cette vie de l'Esprit. Il y a des choses spirituelles. Et quand vous lisez la Bible, vous apprenez à corriger ce qui ne l'est pas, afin que qu'on soit meilleur. Il est dit de Jésus, du Sauveur, Hébreux 1:9, ne le cherchez pas. Tu as aimé la justice, tu as haï l'iniquité, c'est pourquoi ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes collègues. Jésus, il était l'ami des pécheurs, mais il était éloigné du péché. Attention, c'est écrit. J'espère que vous aimez les pécheurs, mais que nous nous tenons éloignés du péché. Parce qu'il y a des gens, au nom de l'amitié que l'on doit avoir pour les pécheurs, ils s'y plaisent beaucoup avec les pécheurs. Et voyez, il faut trouver cet équilibre entre aimer les perdus et être l'ami des pécheurs. Et savoir s'éloigner du péché. Tu as aimé la justice, tu as haï l'iniquité, c'est pourquoi ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes collègues. Et ça, ça te travaille, ça. Apprends-moi, Seigneur, à aimer ce qui est juste. C'est quoi qui est juste? Eh bien, c'est ce qui est écrit. Quand il est dit vaquer à la prière, quand Dieu dit qu'il faut s'appliquer à certaines choses, eh bien, je le fais, je pratique la justice. Alors on pourrait parler, je l'ai fait à plusieurs reprises, de l'importance du baptême du Saint-Esprit. Mais ça, c'est vraiment la solution sine qua non pour que l'œuvre de Dieu se développe. Alors réclamons-le, mais surtout ayons un comportement qui soit en adéquation avec la demande. Si je demande le Saint-Esprit, Seigneur, baptise-moi du Saint-Esprit. D'ailleurs, pourquoi je le demande? Pourquoi je le demande? Est-ce que vraiment c'est important que je sois conduit par le Saint-Esprit pour le salut des hommes, pour exercer la vocation à laquelle Dieu m'appelle? Ou est-ce que je le demande pour dire, moi je parle la langue, mais moi aussi, moi je suis pentecôtiste. Moi, hein. Ne cherchez pas le baptême du Saint-Esprit. Mais vous avez vu, vous les avez vus les 11 terrés dans la chambre haute, dans la crainte? Vous les avez vus 50 jours après? C'est drôle comment le baptême du Saint-Esprit, ça change un bonhomme. Parce que vous n'avez pas peur. Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité. Dieu nous a donné un esprit de force, d'amour et de sagesse. Première condition, premier impératif, j'espère que tout le monde l'accepte, c'est le baptême du Saint-Esprit. Je vous enverrai une puissance, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Plusieurs peut-être n'arrivent pas à témoigner, ont perdu. Peut-être que vous en souffrez et je n'ai pas le moment de vous accabler, surtout pas. Ce ne serait pas intelligent de ma part. Mais si vous en souffrez, la seule alternative, c'est de dire, Seigneur, fais-moi grâce. Aide-moi. Touche-moi. Il le fera, le Seigneur. Il vous aidera. Moi, quand je suis gêné, c'est vite fait. Je prends l'évangile. Oh, je n'ai pas eu le temps de vous parler. Je voulais vous expliquer. Je suis chrétien. En plus, je suis pasteur. Tenez, vous lirez ça. Ça suffit. Est-ce que ça ne suffit pas? Et après, vous allez voir, ah bon? Et ça se fait tout seul après, quand on commence. C'est pas vrai? Vous l'avez vécu. Le baptême du Saint-Esprit. La première des choses que Dieu demande. Alors, le baptême du Saint-Esprit, c'est la condition sine qua non. Mais après, il y a une chose que Dieu veut. C'est la première des choses. Ce n'est pas contradictoire avec ce que je viens de vous dire. C'est que Dieu veut que sa maison soit une maison de prière. Dieu n'a pas changé. Il y a 2800 ans, quand Ésaïe a prophétisé, ma maison se rappelait une maison de prière. Jésus l'a répété quand il est devenu, il y a 2000 ans, ma maison se rappelait une maison de prière. Et je vous dis qu'aujourd'hui, 2000 ans après, Dieu n'a pas changé d'avis. Sa maison doit être une maison de prière. Comment verrons-nous la gloire de Dieu si l'Église n'est plus une maison de prière? Vous avez vu dans l'Ancien Testament tous les textes. On se demande pourquoi le temple a été détruit. Quand vous lisez l'Ancien Testament, ça vous fait peine de voir ce qui s'est passé dans le temple. Dans le temple où Dieu avait dit, là seront toujours mes yeux et mon cœur. Dès que vous me prierez, je vous exhorterai. Vous avez péché, vous vous humilierez, vous demanderez pardon, je vous pardonnerai. Quand un pécheur viendra, quand vous serez battu par l'armée étrangère parce que vous aurez péché, vous reviendrez à moi, je vous exaucerai. C'est Dieu qui parle. Toujours, il y aura là, dans le temple, mes yeux et mon cœur. C'est pas tendre, ça? Et quand on voit, mais lisez les rois, lisez le livre d'Ézéchiel, comment la gloire s'est sortie d'Israël, comme lisez le livre des rois, on va lire un texte pour voir le drame qui s'est passé, l'adoration au Baal, les services même des prostituées, hommes et femmes, dans le temple de l'Éternel. Quand vous lisez toutes ces choses, vous comprenez pourquoi le temple a été détruit. Et il le dit, Dieu, tout ce qu'ils font pour que je m'éloigne d'eux, c'est quelque chose de terrible. Dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ, on doit entendre de la prière. Vous venez pour la première fois, vous pouvez prier. Seigneur, sauve mon âme de mon péché. Est-ce qu'un pécheur peut venir la première fois? Je me souviens la première fois où une des prostituées a élevé la voix. Vous n'avez pas fait attention. Mais quelqu'un m'a dit, monsieur Hugo, est-ce qu'une prostituée a le droit de prier dans l'église? Ben, oui. Un peu, oui. Est-ce qu'un pécheur a le droit de demander pardon au Seigneur? Est-ce qu'un chrétien a le droit d'adorer Dieu? Bien sûr, si quelqu'un fait du cinéma, si un ancien, je sais pas, mon responsable vient le péché, je pense qu'on pourrait dire, bon, écoute, ça serait bien que... Mais la maison du Seigneur est une maison de prière. Dès que quelqu'un se convertit, il devient un prieur, un intercesseur, un adorateur. Dès que quelqu'un se convertit, Dieu s'est obligé. Fait de cet homme, de ce chrétien, un intercesseur. Il va prier, parce qu'il sait que le cœur de Dieu ne peut se mouvoir que par la prière. Oui ou non? Sans moi, vous ne pouvez rien faire, dit Jésus. Une église qui ne prie pas est une église qui s'endormira. Une église qui ne verra rien du tout si la religion, une religion, une de plus. Vous avez envie d'une religion de plus? Vous avez envie que les gens du monde voient par l'église évangélique une réunion de plus? Là-bas, il y a l'église catholique. Là-bas, il y a l'église évangélique libre. Là-bas, il y a l'église réformée de France. Là-bas, il y a l'église protestante évangélique libre, etc. Oui, mais ça me fiche. Les gens, il faut qu'ils voient une église où il y a l'onction du Seigneur, où les prières sont exaucées, où les malades sont guéris. Ma maison sera appelée une maison de prière. Et combien nous aurons des comptes à rendre à Dieu? Je le dis très solennellement. Nous aurons chacun pour soi des comptes à rendre à Dieu pour avoir négligé de faire en sorte que sa maison soit une maison de prière. Nous avons donné à Satan l'avantage. Ça ne vous plaît pas ce que je vous dis, mais c'est la vérité. Nous donnons à Satan l'avantage quand nous ne prions pas. Nous devons trouver une heure pour la prière. Pierre et Jean montaient au temple à l'heure de la prière. Pourtant, ils avaient du boulot, c'était des pasteurs, en plein réveil. Mais montaient au temple à l'heure de la prière. Est-ce que dans votre vie, il y a une heure pour la prière? Si vous ne trouvez pas une heure pour la prière, moi je vous dis, vous êtes en danger. Il y a une heure, nous avons une réunion de prière, nous avons plusieurs réunions de prière. Vous avez vu, ce matin, on a commencé presque à 9h de prier. Pourquoi? Mais parce que c'est bien de commencer le culte, de prier avant. Est-ce que c'est bien? Est-ce que ce n'est pas une façon de préparer les cœurs? Pas seulement qu'ici. Qu'est-ce que vous en faites de la réunion du mardi soir? Peut-être que vous dites, je n'ai pas le temps, mais peut-être que, je ne sais pas moi, arrangez-vous. Je vous invite mardi soir au restaurant. Une bonne grillade dans le restaurant le plus chic de Toulouse. Vous viendrez. C'est pas vrai? Vous pourrez vous garer. Vous aimez les grillades? Sérieusement, si je vous dis, je vous invite mardi au centre-ville, il y a vraiment un restaurant. Ils font des côtes de bœuf. Vous voulez venir mardi soir à 7h30, s'il vous plaît? Soyez-y avant parce qu'il y a du monde. Qu'est-ce que vous ferez? C'est pas vrai? Est-ce qu'il n'y a pas plus important qu'une côte de bœuf à partager avec le pasteur? Ça peut se faire quand même. Parce que quand même, la communion fraternelle, c'est une bénédiction. N'enlevons pas l'humain. Mais mes frères et sœurs, je vous le dis de la part du Seigneur, si la maison de Dieu n'est pas une maison de prière, l'apostasie rentrera. C'est obligé. Faites confiance à votre pasteur. Sur ce point-là, j'ai suffisamment lu l'Ancien Testament pour voir que dès qu'il n'y a pas eu la prière, le diable est enterré. Et c'est toujours son but. Parce que s'il ne doit pas changer d'avis, laissez-moi vous dire que l'intention de l'ennemi, c'est de s'asseoir dans le temple de Dieu. Il va y arriver? Si, il va y arriver. Eh ouais. 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Il y arrivera. Mais nous ne voulons pas de ça ici. Nous voulons une église qui marche dans la parole de Dieu. Et si la maison du Seigneur est une maison de prière, ça marchera, mes frères et sœurs. Et nous devons poser la question, mais est-ce que je ne peux pas bloquer? Non, ce n'est pas pour avoir plus de monde à l'église. C'est pas, cette pensée serait catastrophique. C'est pour que tous nous comprenions qu'il y a un enjeu des âmes à sauver, de la colère de Dieu. Vous le croyez que la colère de Dieu, elle vient? Nous avons dans nos familles plein de gens qui sont perdus. Ça nous brise le cœur. Ils vont aller à l'enfer s'ils ne se repentent pas, vous le savez. Est-ce que j'exagère? Et c'est pour cela, il y a des étudiants, il y a 5000 étudiants qui vont arriver en fin septembre à Toulouse. 5000 étudiants qui vont arriver à Toulouse, c'est pas ça, Fabienne? 120 000 étudiants à Toulouse, sans compter les IUT. Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que Dieu peut en sauver des hommes et des femmes? On a chaque année plusieurs baptêmes de jeunes qui se convertissent pendant leurs études à Toulouse et qui repartent après. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas en voir davantage? Une effusion du Saint-Esprit dans nos universités. Une onction du Saint-Esprit qui est conjuguée à une vie de prière. Oui, l'heure de la prière. Pierre et Jean étaient très occupés, mais ils montaient au temple. Et ils ont fait une expérience extraordinaire ce jour-là. Oui, il y a une heure pour la prière. S'il n'y a plus une heure pour la prière, c'est qu'il n'y a pas le fardeau des âmes. Parce que moi, je suis convaincu que les gens qui prient, ils prient parce qu'ils ont le fardeau des âmes. S'il n'y a plus le fardeau des âmes, c'est qu'il manque quelque chose. Le Saint-Esprit n'est plus percutant dans notre esprit. Je vous la pose la question. Est-ce que, si ce n'est pas le cas, tant pis. Mais remettez-vous en question. Est-ce que vous avez le fardeau des âmes de votre famille? Est-ce que vous dites, Seigneur, mes enfants, ils ne sont pas encore sauvés? Et pitié d'eux, Seigneur. Et vous croyez que Dieu est d'accord avec cette prière? Vous croyez que Dieu vous regarde les bras croisés en disant qu'est-ce qu'il demande? Dieu, il est avec vous quand vous dites, Seigneur, sauve mon fils. Sauve mon petit-fils. Dieu est avec vous, c'est ce qu'il veut. C'est pour ça qu'il est mort sur le bois de la croix. Ah, moi, j'ai pas le temps de prier. C'est pas le ministère que j'ai reçu. Mystère de la prière. Si vous avez l'affront de dire ça à Dieu, de dire à Dieu, j'ai pas le temps de prier, demandez-lui pardon. Il vous pardonnera. Demandez-lui pardon. Si vous avez eu le topé de dire à Dieu, moi, j'ai pas le temps, demandez-lui pardon. Suppliez-le de vous pardonner. Il le fera. Ne dites pas, oh, mais moi, je me lève, je suis à la bourre et tout. Mais couchez-vous plus tôt. Parce qu'il y a peut-être un Dieu cathodique qui vous empêchera d'entrer. La prière. Vous savez, lorsque Jésus a été tenté par Satan, il lui a répondu face à une de ses tentations, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras. Un homme qui adore Dieu, c'est quelqu'un qui ne va pas pouvoir faire autrement que de le servir. L'inverse n'est pas vrai. Il y a des gens qui servent Dieu, mais qui ne l'adorent pas. Ils servent Dieu, mais ils ne le connaissent pas. Ils servent Dieu, je le vois. Ils servent Dieu, je me souviens de cette jeune fille qui est venue me voir. Elle était à la chorale. Elle venait d'arriver, il l'avait introduite à la chorale, sans me demander mon avis, dans le sens où, bon, je... Et cette jeune fille, quand j'ai discuté avec elle, j'ai parlé avec elle, elle voulait servir Dieu. C'était son obsession, elle voulait servir Dieu. Mais quand j'ai discuté avec elle, je lui ai dit, mais mademoiselle, vous n'êtes pas convertie. Alors elle s'est fâchée et tout, vraiment fâchée. Puis elle est revenue deux ou trois fois, et bien sûr, elle l'a reconnue. Voyez, on peut servir Dieu sans le connaître. Mais quelqu'un qui adore vraiment le Seigneur, il ne peut pas ne pas le servir. Ce n'est pas possible. Tu l'adoreras et tu le serviras. L'onction du Saint-Esprit, la prière, parce que la prière, ce n'est pas que parler. La prière, c'est le silence, c'est la contemplation, c'est l'intercession, c'est la supplication. Des fois, on voit quelqu'un qui prie tout simplement. Des fois, on voit quelqu'un qui répand son âme. Il est là, il pleure devant Dieu. Est-ce que ça peut arriver? Oui, parce qu'il y a des fardeaux. Il y a toutes sortes de prières et de supplications devant Dieu. Et le troisième point, c'est le service vraiment. Mettez au service des autres le don que vous avez reçu. La maison de prière devrait générer ces choses. Que chacun, ce matin, une femme de l'église est venue me voir, me dit, monsieur, voilà, je veux servir le Seigneur, je veux aider à ça. Mais qu'est-ce que vous en pensez? Mais ça me réjouit. Ça, quand ça vient des gens, c'est encore plus extraordinaire. Je peux, j'ai du temps, je peux faire ça dans l'église. Mais faites-le, ma sœur, que Dieu vous bénisse. Si nous ne prions pas, les gens vont stagner, l'église va végéter. Et vous savez, ça m'est, je le dis, c'est pas bien, je ne sais pas si c'est bien, c'est pas grave. Ça m'est arrivé des fois d'avoir de la peine. C'est pas mon habitude, parce que vous savez, j'en ai trop souffert, et je sais qu'il faut se décharger de tout. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Et quand j'en ai un, j'essaie que ça ne dure pas plus de 3 ou 4 minutes. Mais ça m'est arrivé d'avoir de la peine, de voir que le mardi soir, c'est pas bien ce que je dis, mais j'ai le droit aussi de vous ouvrir mon cœur. Je ne pense pas que ça fasse partie de la prédication, ça, c'est pas intelligent. Mais vous avez le droit de me connaître un peu plus. Et ça m'est arrivé d'avoir vraiment de la peine, de voir que sur 400 membres, on était une quinzaine à la prière. Est-ce que vous allez me dire, mais Dieu peut sauver au travers d'un petit nombre comme d'un grand nombre? Jésus n'a pas dit, il faut qu'il y ait 80% de l'Église et je serai au milieu de vous. Jésus l'a dit, s'il a deux ou trois, bon, c'est clair, il est là. Même si on n'est que deux ou trois, c'est rassurant. Vous ne croyez pas que c'est rassurant? S'il avait dit, il faut qu'il y en ait 80%, on serait mal. Que son nom soit béni. Mais le service. Mes frères et sœurs, je vais terminer. Quel est votre service dans l'Église pour Jésus-Christ? Si vous rencontriez Jésus dans la rue et que vous dites, oh Seigneur, et qu'il vous dit, qu'est-ce que tu fais? Quel talent fais-tu valoir? Que répondriez-vous? Frères et sœurs, que répondriez-vous? Certains, vous pourriez être heureux. Moi, je fais ça, Seigneur. Tu le sais. Je le fais, de tout mon cœur. Je sais, il vous dira, de toute façon, il le sait. Mais quel est le service? Je parle aux baptisés, là, si vous êtes nouveau, que vous n'êtes pas encore baptisé. Mais vous qui avez pris un jour l'engagement d'accepter, pour être tous les baptêmes, j'écoute. Même si ça pleure un peu, hein, Alexandre? Même si ça pleure un peu, j'écoute. Il est où, Alexandre? Je l'ai vu. Ah. J'ai accepté Jésus comme Seigneur. C'est ce que tu as dit, Alexandre. C'est ce que vous avez dit, Anna. Louis-Guy, il est là, Louis-Guy? C'est ce que vous avez dit. J'ai accepté Jésus comme Seigneur. Ça veut dire qu'il gouverne. Ce n'est plus moi qui vis, c'est lui qui décide. Est-ce que c'est Dieu qui décide pour votre service? Est-ce que vous dites, mais moi, voilà, Dieu, c'est très sérieux cette affaire. Parce que je vous dis, moi je peux vous dire, demain, voilà, faites ci, monsieur Puette, faites ça. Mais si ce n'est pas Dieu qui lui demande ça peut être dirigé par Dieu, parce qu'il y a des gens qui sont timides, ils ont besoin des fois d'un petit coup de pouce. Mais sérieusement, vous savez que la parabole des talents nous indique que nous avons tous reçu un talent. Un ou deux, ou trois, ou cinq, ou dix. Est-ce que vous savez que vous avez un talent? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut se lever et dire, moi j'ai pas de talent? Ça nécessite une visite cette semaine. Parce que déjà, Dieu vous a donné une voix, oui ou non? Et le fils de Madame Abbesse, dans l'église, il vient très irrégulièrement, il est muet. J'essaie un petit peu, chaque fois, de discuter avec lui. Il me répond, je le vis mal un peu parce que c'est pas facile. Mais quand il s'en va, et je le fais d'ailleurs chaque jour, je dis, Seigneur, merci pour la voix que tu m'as donnée. La parole. Est-ce que c'est pas un talent de pouvoir parler? Il y a des millions de muets sur Terre, on n'y fait pas attention. Il y a des millions de muets, des gens qui ne peuvent pas parler. Est-ce que la voix, ce n'est pas un talent pour pouvoir prier? Si vous dites à Dieu, mais tu sais, je n'avais pas talent, mais écoutez-moi, hein. Le Seigneur vous dira, mais tu n'avais pas une voix pour parler. Tu ne pouvais pas prier. Vous allez lui dire, comme le gars dans la parabole, j'ai eu peur, je savais que tu es un homme dur, que tu moissonnes, ou tu n'as pas semé. Vous voyez, tout d'un coup, ça prend des proportions affolantes. Écoutez-moi. Voulez-vous vous entendre dire... Vous savez ce qu'il a entendu, ce brave? Ce brave, ce pauvre brave. Qu'est-ce qu'il a entendu? Et le serviteur méchant et paresseux, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. C'était un serviteur, quelqu'un du royaume, c'était un élu, un racheté, un chrétien. Il avait un talent. Et moi je dis que la voix que Dieu nous a donnée, c'est déjà un talent que l'on peut faire valoir. Seigneur, je peux te donner une demi-heure pour faire valoir ce talent et te supplier. Il n'y en a pas de sujet de prière? Si vous ne faites pas valoir votre talent, vous êtes en danger. Si moi je ne vous le dis pas, mais qui c'est qui vous le dira? Donc si Jésus vous croisait demain dans la rue, quel est ton talent mon frère? Que fais-tu? Alors bien sûr, mais on n'est pas sauvé par les œuvres. Mais bien sûr. Bien sûr qu'on n'est pas sauvé par les œuvres. Mais Dieu nous a sauvés afin que nous pratiquions de bonnes œuvres qu'il a préparées à l'avance. Si vous jouez avec cette affaire de dire, parce que c'est vrai que l'église dans laquelle nous étions d'une manière majoritaire était une église qui a enseigné le salut par les œuvres, ce qui est une fausse doctrine, il y a quand même l'épître de Jacques qui fait pendant à tout l'enseignement sur le salut par grâce, c'est que la foi sans les œuvres, elle est morte. Et que si vous vous autorisez à dire, mais moi, oui, mais moi, je sais pas, écoutez, mais vous êtes, c'est grave, vous êtes en danger. Et vous devez dire, Seigneur, mais qu'est-ce que je dois faire? Mais qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que ma place, c'est le mardi soir, le jeudi midi, au jeûne et prière? Est-ce que ma place, c'est d'entourer les pécheurs, le dimanche après-midi, le jeudi soir à l'évangélisation? Est-ce que ma place, c'est justement d'avoir, tiens, une demi-heure ou trois quarts d'heure, je vais me renseigner sur tous les sujets de prière? Est-ce que ma place, c'est de servir à la musique? Peut-être que vous avez un don et vous ne le faites pas valoir. Et vous dites, il y a plein de musiciens, mais ce n'est pas qu'il y ait plein de musiciens ou pas. Le problème, ce n'est pas qu'il y ait 10 musiciens ou qu'il y en ait 3. Le problème, c'est est-ce que vous faites ce que Dieu vous demande? C'est ça le problème. C'est, excusez-moi l'expression, c'est ridicule de dire, il y en a dont je ne le fais pas. Vous allez dire ça au Seigneur? Ah, mais il y a combien d'équipes de ménage? Ah, ben c'est bon, il y en a assez. Mais le problème, il n'est pas là-dedans. Le problème, il est, je dois faire avec joie ce que Dieu me demande. Mettez au service des autres, parce que c'est facile de dire, moi je sers Dieu. Moi Dieu. Mais les autres, ils ont qu'à faire leur truc à eux. Servir Dieu, je suis désolé, c'est servir les autres. Oui ou non? Si vous vous amusez là aussi à ça, vous êtes mal barré. Servir Dieu, c'est sérieux. C'est là qu'on reconnaît un homme, une femme, qui a le souci de l'œuvre de Dieu. Nous ne savons pas ce que Dieu a prévu pour cette assemblée. Est-ce que ça vous intéresse? Voyez ce matin, Nathanaël prêche à Rodez. Que le nom du Seigneur soit béni. C'est notre travail. Bien sûr que je l'ai formé en tant que pasteur, mais si vous n'aviez pas apporté vos offrandes, on n'aurait pas pu le prendre à Nathanaël. La récompense, c'est pas moi qui l'aurai dans le ciel, c'est toi qui as formé Nathanaël. La récompense, elle sera pour toi. Si vous n'aviez pas apporté votre femme, je ne vois pas comment j'aurais pu le former à Nathanaël. Vous me suivez? C'est notre travail. Ça, c'est toute récompense. C'est une œuvre de l'Église. Nous avons travaillé à former un pasteur qui s'applique, qui est à Rodez, qui va s'occuper de l'Aveyron. Et je le sais qu'il va faire du bon travail. Joël, qui vous salue d'ailleurs, est en train de prêcher ce matin dans le nord de Marseille. Alléluia. Avec ce fardeau qu'il a pour les âmes. C'est votre travail. Voilà, ça fait partie du travail. Mais il y en a d'autres. Alors ne dites pas, mais c'est bien, on avait 3 stagiaires, on soutient les Bordeaux-Neuves, on aide pour l'AEP, on aide, on donne de l'argent aux misérables, on fait ci, on fait là. Mais toi, quand tu passeras devant Dieu, toi, c'est bien les assemblées générales, on fait le récapitulatif, merci Seigneur. Mais toi tu es là ce matin. Entendras-tu? Entre dans la joie de ton maître. Jésus vous le dira lui-même, ce n'est pas un ange qui va vous dire, eh bien, il n'a pas le temps. C'est Jésus lui-même qui s'adressera à vous. Et vous entendrez, soit entre, bon et fidèle serviteur. Entre-toi dans la joie de ton maître. Tu as été fidèle un peu de choses, après il ajoute, je te confierai beaucoup. Oh, mais ça, c'est pas grave. Mais entre dans la joie de ton maître. Moi, c'est ce que je veux entendre. C'est la parole qui sera la plus importante pour moi de toute mon éternité. Je n'ai pas envie d'entendre. Retire-toi de moi. Méchant serviteur paresseux. Qu'avez-vous envie d'entendre? Quel est votre plat? Vous avez choisi de venir dans cette église. C'est ma responsabilité de vous enseigner. Mais ce matin, vous devez pouvoir prendre une décision, dire, Seigneur, je me repens, je me corrige. Merci, j'ai pris une claque, c'est très bien. Vous aimez être repris? Vous aimez être repris et vous dites, non, il est trop dur. On me le dit des fois, cette parole est dure, monsieur Go. Ah, je dis, c'est pas nouveau. Il y a longtemps que je le dise. Et je ne pense pas quand même que ce sont des paroles qui vont me faire rabaisser le niveau dans l'église. Oui, cette parole peut être dure. Mais moi, je vais vous dire la vérité. Cette parole, elle n'est pas dure. Elle est pleine de bonté. Parce que ça prouve que Dieu nous aime. Parce que Dieu dit qu'il châtie celui qu'il aime. Et si vous n'aimez pas le châtiment, si vous êtes exempt du châtiment, vous êtes, je vais dire ce que dit la version Darby, des bâtards. C'est écrit comme ça, monsieur Olé? Oui. Si vous êtes exempt du châtiment, si vous vous excluez du châtiment de Dieu, vous êtes des enfants illégitimes. Pour être plus sympa. Mais quoi qu'il en soit, nous allons prendre le pain et le vin. Que ce soit l'occasion de dire, Seigneur, tu ne me juges pas. Tu ne me condamnes pas. Tes bras, je le sais, sont toujours ouverts. Tu es assis sur le trône de la grâce. Tu m'as interpellé ce matin. Ça m'a fait quelque chose. Mais je ne veux pas connaître le drame, le sort final de cet homme qui a enterré le talent. Je veux entendre. Entre, bon et fidèle serviteur. On peut se recueillir. Monsieur de Dieu, s'il vous plaît, vous pouvez choisir des frères. Est-ce que vous pouvez dans le silence? Ne parlez pas haute voix, ne priez pas haute voix, mais dans votre cœur. Est-ce que vous pouvez laisser le Saint-Esprit vous convaincre? Parce que je crois que le Saint-Esprit convainc lorsqu'on honore sa parole. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit, mais c'est vrai, je ne fais rien. J'ai tout enterré. Je t'avais promis au nom baptême de te servir. Je t'avais promis que toute ma vie, je te louerais. Je suis là dans le découragement. Mais ce matin, Dieu a permis que vous soyez là. Il vous voit. Il sait que vous êtes en train de vous perdre. Il sait que vous êtes en train de partir là dans la perdition. Et il ne veut pas. Il vous dit, non, reviens, jette-toi. Utilise ce moment de sainte scène pour retrouver la communion, pour retrouver la fraîcheur, la prière. Mes frères, mes sœurs, oui, si Jésus te rencontrait dans la rue tout à l'heure, mais que fais-tu, ma fille? Que fais-tu dans ma maison? Oui, vous qui avez choisi de faire partie de cette assemblée, il y a des activités. On a besoin d'animateurs à l'école du dimanche. On a besoin des animateurs pour les ados. On a besoin de musiciens. On a besoin de personnes pour le ménage, pour les visites. Un frère qui vient d'arriver, qui travaille ce matin d'ailleurs, il y a 15 jours qu'il est là, il me dit, Monsieur Gros, donnez-moi la joie d'aller visiter les malades. Et ce frère, il a le feu dans son cœur. Ça m'a réjoui, il est loin de s'imaginer. Voilà, on a besoin, tu l'adoreras et tu le serviras. Oui, demandez au Seigneur. Demandez-lui au Seigneur. C'est peut-être le don de libéralité. Je m'adresse à ceux qui ont peut-être de l'argent. Je le fais d'une manière très sérieuse. L'Église est bénie matériellement. Mais c'est peut-être un don de libéralité que Dieu vous a donné. Faites-le pour Dieu, toujours pour Dieu, consciencieusement. C'est Dieu qui vous a béni matériellement. Alors, faites-le pour la gloire du Seigneur. Il y a un homme un jour qui m'a dit, moi j'étais un homme d'affaires, il m'a dit, mais voilà, moi ce que je peux faire c'est donner de l'argent. Mais j'ai vraiment eu la conviction que c'était Dieu qui utilisait cet homme de cette façon-là pour bénir l'assemblée. Vous savez, je vous donne ce témoignage il y a quelques années de ça. J'avais prêché sur les talents il y a peut-être 10 ans ici, dans cette église. Et à la sortie, il y a une femme qui a quitté ses bijoux. C'était une croix, vous savez, la croix de David et un autre bijou en or. Et j'ai vu que cette femme était pauvre. Et au moment où elle me donnait les bijoux, le Seigneur m'a dit, attention, ne refuse pas cette offrande. C'est pas à toi qu'elle les donne, c'est à moi. Si vous saviez comment j'ai eu honte. C'était entre moi et Dieu. Mais voyez, bien sûr, après, ça représentait un petit peu d'argent. J'ai gardé ces bijoux, j'étais voir le bijoutier, j'ai donné moi l'argent liquide pour l'argent que ça représentait. Mais ce que je veux dire, mes frères et sœurs, quand il y a l'onction du Saint-Esprit, les cœurs sont touchés. Quand il y a la présence de Dieu, les gens sont bouleversés. Le blasphémateur repart en se frappant la poitrine. Le tiède repart bouillant. Le rétrograde repart poussé, vêtu, un anneau au doigt. Quand il y a l'onction, Jésus bénit. Quand il y a l'onction, comme dans ce moment, maintenant, vos enfants qui sont peut-être dans un bistrot en train de boire un apéro, ils sont peut-être convaincus de péché. Maintenant, rien n'est impossible à Dieu. Quand une église prie, met au service des autres les dons qu'elle a reçus, et quand elle a le souci de dire « Oh, baptise-moi de nouveau du Saint-Esprit. » Seigneur, nous allons prendre le pain et le vin. Que ta bénédiction soit sur tous tes enfants. Que ta bénédiction soit sur toute l'église. Que les tièdes repartent bouillants. Que cette église soit une maison de prière et soit connue dans le monde pour être uniquement une maison de prière. Que ton feu brûle, Seigneur, et consume le péché pour la gloire de ton nom.